Merci de me donner la parole aujourd'hui sur les questions à la fois de laïcité et de dialogue interreligieux. Au préalable, je voulais me présenter un peu plus en détail. Donc, je suis en charge à la mairie de Bordeaux, effectivement, de l'égalité et de la citoyenneté, ce qui recouvre plusieurs champs, la lutte contre les discriminations, la diversité interculturelle, mais également donc les rapports avec le culte, le dialogue interreligieux, et de manière assez récente, la question de la lutte contre la radicalisation, puisque nous avons à Bordeaux un centre un peu pionnier en la matière, dont je dirai deux mots à la fin de mon intervention. Je voulais également vous dire deux choses. Une chose assez personnelle, c'est de vous dire d'où je parle. Moi, je parle d'une place de quelqu'un qui est entre athée et agnostique, c'est-à-dire que je ne me définis pas comme croyant, et que, au départ, mon investissement associatif de lutte contre les discriminations a fait que je me suis retrouvé avec cette délégation, mais il n'était pas forcément prévu que je m'occupe aussi des religions et des cultes, et ça m'est arrivé comme ça, sur une décision d'Alain Juppé, qui met le vivre ensemble dans sa globalité, dans la même délégation, et je lui ai demandé confirmation du périmètre. Il m'a plusieurs fois confirmé que dans mon périmètre de délégation, il y avait la question religieuse. Donc, je suis issu d'une famille athée, et donc là où je parle, c'est en tant qu'adjoint au maire qui est extérieur aux questions religieuses et qui a une triple préoccupation sur ces questions-là à l'heure actuelle. La première, c'est d'appliquer le droit. C'est-à-dire qu'en France, on a un corpus juridique assez volumineux sur les questions religieuses, sur la question de la laïcité. C'est parfois mal compris, mais c'est quand même le socle de notre contrat social. Et donc, c'est ce qui m'a amené à faire... Alors, j'ai un master de droit, mais j'ai fait en plus un diplôme universitaire de droit, société et religion, qui est un mélange de droit des religions et de sociologie des religions, et qui donne une visibilité globale de la manière dont la France appréhende la question religieuse, y compris dans son corpus juridique. Donc, premier souci, appliquer le droit. Deuxième souci, favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et j'ai vu que le thème du colloque était « Rassembler ce qui est épars ». Je crois que nous avons tous la même préoccupation, qui est de créer de l'unité dans la diversité. Et d'ailleurs, l'unité dans la diversité sera le thème de notre prochaine quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté au mois d'octobre prochain. Et le troisième élément, c'est que nous avons une petite expérience quand même de ce qu'est la radicalisation au sein du centre de prévention de la radicalisation de Bordeaux, puisque nous suivons une vingtaine de cas. Et effectivement, nous avons aussi d'autres sources, notamment le centre de Montréal que nous avons visité cette semaine, qui lui a 150 cas suivis. Et donc, il nous renseigne un peu sur ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui se radicalisent et qui est très éclairant au regard du débat actuel qui est quand même centré plutôt sur les signes religieux que sur proprement les questions de sécurité et les questions de prévention. Après ce court préambule, je voulais m'interroger avec vous sur le titre de la rencontre, laïcité ou dialogue interreligieux, comme si ces deux notions étaient opposées, alors qu'à mon sens, elles se recoupent en grande partie. Le dialogue interreligieux, on voit bien ce que c'est, hein, c'est le fait que les principaux responsables culturels dialoguent entre eux. Ça ne correspond pas tout à fait à l'esprit de la loi de 1905, où il y a une séparation entre l'État et les collectivités et les cultes. Il y a un principe de non-reconnaissance, et aujourd'hui, quand on fait un conseil interreligieux comme à Bordeaux, avec 6 représentants des cultes, donc les 3 confessions chrétiennes, plus les musulmans, les israélites et les bouddhistes, quand on fait un conseil interreligieux, on est déjà dans un principe de reconnaissance de certains cultes par rapport à d'autres. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est une adaptation de la loi 1905 et qui est aussi quelque chose de nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce que ça a été dit, il y a eu des événements tragiques, il y en a eu d'autres avant, hein, puisqu'on en est à la 7e conférence interreligieuse citoyenne, qui est une conférence annuelle, donc ça fait 7 ans qu'à Bordeaux il y a 7 conférences interreligieuses qui existent. Ce qu'il est important de voir, c'est que au-delà des questions d'antisémitisme qui se développent dans la société en général, mais aussi chez une partie des musulmans, au-delà de la question de l'islamophobie qui se développe aussi dans la société en général, générale et peut-être chez une partie des citoyennes et des citoyens de confession juive, au-delà des questions aussi du rejet des catholiques qu'il peut y avoir. Il y a des églises qui sont régulièrement menacées et victimes de troubles. Au-delà de ces questions-là, se pose la question à nous en tant que responsables politiques du vivre ensemble et de faire en sorte que la cohésion sociale et nationale soit la plus forte possible et d'apaiser les tensions. Et avoir 6 représentants des cultes qui dialoguent entre eux, j'inaugurais jeudi soir le centre culturel juif de Bordeaux je pourrais répondre à vos questions sur l'opportunité d'un centre culturel juif à Bordeaux, mais en l'occurrence il y a des arguments très rationnels sur le fait qu'il puisse y en avoir. Et j'ai vu Tarek Oubrou, donc l'imam de la mosquée de Bordeaux, et le grand rabbin Claude Maman se prendre par le bras, se parler en arabe en se disant des choses qui manifestement étaient très très positives. Je comprends pas l'arabe, donc ils avaient tous les deux le sourire, et on voit une vraie amitié, une vraie complicité, et ça a été deux des constructeurs de du dialogue interreligieux à Bordeaux. Et on voit bien dans cette attitude d'amitié entre deux cultes qui sont réputés antagonistes à certains niveaux, avec des tensions qui prennent racine sur le conflit israélo-palestinien, on voit tout l'intérêt qu'il y a à avoir des représentants des cultes qui se parlent, qui s'apprécient, qui sont amis, et montrer ainsi que le juif ou le musulman n'est pas l'ennemi et peut-être l'ami. Et il y a des pays comme le Maroc, par exemple, où les Juifs ont un statut qui a permis à différents moments de l'histoire de les protéger d'un drame assez terrible, là où en France, on n'était pas dans les mêmes dispositions, malheureusement. Donc le dialogue interreligieux, pour nous, c'est un moyen de favoriser le vivre ensemble et de montrer qu'au-delà des appartenances religieuses, on est en capacité de se parler, d'échanger et de co-construire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est malgré tout que les représentants cultuels représentent une partie de la société. Qu'on le veuille ou non, il y a des croyants juifs, musulmans, catholiques, bouddhistes, et donc ils ont aussi leur mot à dire par rapport à ce que peut faire une ville ou ce que peut faire un pays, et donc dans le cadre démocratique, ils ont tout à fait le droit d'avoir une parole, et ça c'est le fondement de notre démocratie. Chacun a le droit de donner son avis sur ce que fait une collectivité locale ou un pays. J'ai été très régulièrement sollicité pour que des francs-maçons, des agnostiques, des athées intègrent ce conseil interreligieux et citoyen. J'en ai parlé avec Alain Juppé à plusieurs reprises, qui y est favorable. Quand j'en ai parlé aux représentants des cultes, je dois avouer qu'ils étaient beaucoup moins favorables. Alors au début, je ne comprenais pas trop leurs réticences, et puis au final, j'ai fini par comprendre en fait que faire venir des représentants athées, agnostiques, dans ce type d'instance, viendrait à accréditer que la laïcité est une religion, comme d'autres religions. Or la laïcité, d'un point de vue juridique, c'est très clair, ça n'est pas une religion. La laïcité, c'est au-dessus des religions. C'est un principe juridique, c'est un principe constitutionnel qui nous gouverne tous. Et faire venir la laïcité comme religion, comme c'est le cas en Belgique, par exemple, où l'État belge finance les cultes, les agnostiques et les athées, ça encourage les tensions, dans la mesure où vous allez avoir des gens qui pensent que la laïcité est une religion et donc vont aller combattre, avec des visions parfois un peu anti-religieuses, les religions. Sachant que combattre les religions est relativement illusoire, on le sait, même si vous n'êtes pas d'accord avec les religions. Moi-même, avec mon passé associatif militant, j'ai pas toujours été un ami des imams et des rabbins, mais la question religieuse, c'est une question qui appartient à l'être. C'est ce que nous dit le sociologue, c'est pas du registre de l'avoir, d'avoir une religion, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on est. Donc ça appartient à la personne. Donc vous aurez beau toujours essayer de reléguer la religion au niveau de la sphère privée, ça ne résoudra absolument pas la question de l'appartenance religieuse, puisque c'est quelque chose qui appartient à l'être. Quand on a été élevé dans un contexte religieux, on a des croyances qui appartiennent à ce registre-là. Donc, Cette conférence interreligieuse, ou plutôt ce conseil interreligieux, pour l'instant, en l'état, compte tenu des réserves des principaux cultes, va rester sans maçon, sans agnostic et sans athée. Ce serait posé quand même la question du choix, hein, qui est-ce qu'on fait rentrer et comment on les choisit, organisera lundi soir, vous êtes tous invités d'ailleurs à venir y participer, la 7e conférence interreligieuse citoyenne sur le thème qui sera les religions et l'accueil de l'autre. Hein, donc se posera la question de l'altérité dans le cadre des religions. Pour poursuivre mon propos, je voudrais justement par rapport au titre laïcité aux religions revenir sur le principe de laïcité parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup de choses sur la laïcité et il me semble qu'il est important de revenir au texte. D'ailleurs, j'ai imprimé toute la loi M. Khomri, donc on pourra répondre aux questions s'il y en a. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut sortir des représentations pour aller sur les textes. En quoi la laïcité serait-elle contradictoire avec le dialogue interreligieux? Le modèle français de laïcité, il est à la fois simple et à la fois très complexe. La laïcité, le fondement de la laïcité, c'est 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, dans la mesure où elle ne trouble pas l'ordre établi par la loi. Hein, donc, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui aujourd'hui a une valeur constitutionnelle, hein, donc le juge constitutionnel peut l'utiliser, elle pose le principe de liberté de conscience. Hein, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc ça, c'est le fondement, c'est 1789. Avant 1789, on avait le principe de catholicité, c'est-à-dire qu'il y avait une seule religion d'État, c'était la religion du roi, et les autres, ceux qui n'étaient pas catholiques, n'avaient pas le droit de citer. Les juifs étaient considérés comme étrangers, et les protestants avaient un statut pas très enviable. Donc c'est vraiment 1789 qui va poser les bases du principe de laïcité. La Révolution va mettre un siècle, plus d'un siècle à être digéré, on va avoir une laïcisation progressive du mariage, des cimetières, de l'état civil et donc de l'école, hein. Tout ça va être laïcisé, le religieux va se retirer de tout ça, avec entre 1802 et 1905 le régime des cultes reconnus, où on était passé d'un régime de catholicité avant 1789 à un régime où on reconnaissait quatre cultes en 1802, donc deux cultes protestants, luthériens et réformés, le culte israélite et le culte catholique. Et l'aboutissement de tout ça, c'est la loi de 1905. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que cette loi, elle est l'aboutissement d'un processus qui s'ancre sur la liberté de conscience. Et elle reprend dans son article 1 ce principe de liberté de conscience qui est que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Et donc l'article 1 de 1905 montre que c'est une loi de liberté, c'est une loi libérale, même si elle s'appelle loi de séparation. La séparation qui arrive dans l'article 2 n'est là que pour garantir la liberté de conscience de chaque citoyen. Et l'article 2, il dit quoi? Il dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Donc, les tenants d'une laïcité intégrale, notamment comme Émile Combes pendant les débats parlementaires sur la 1905, s'appuient sur ce principe de séparation pour dire « Il faut aller plus loin, il faut éradiquer le religieux de la sphère publique » et s'appuient sur l'article 2. Bon. Or, l'esprit de la loi, c'est plutôt l'article 1. Juridiquement, quand on met un article en vedette d'une loi, c'est celui qui prime. Et là, en plus, j'ai retrouvé ce qu'a dit Aristide Briand dans son rapport parlementaire. Il a dit très clairement, le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Donc, il confirme que c'est un principe de liberté et que la séparation vient garantir ce principe de liberté, mais que la séparation n'est pas une fin en soi. Toutefois, je continue à citer, dès que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Très clairement, en 1905, nous avons une loi de liberté, une loi qui garantit la pluralité des cultes, la pluralité de conscience, le droit de croire et de ne pas croire, et quand on est croyant, d'exprimer ses convictions religieuses. Il y a eu depuis 1905 des évolutions de la loi. Je vais les simplifier, mais l'article 1, le champ de la liberté de conscience a été restreint par la loi de 2004, qui interdit les signes par lesquels les élèves peuvent se prévaloir d'une appartenance à une religion, les signes ostensibles, et la loi de 2010 sur l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public. Donc on a deux lois qui viennent restreindre l'article 1 de liberté de conscience dans deux domaines particuliers, qui étaient justifiés à l'école parce qu'il y avait des problèmes de fonctionnement du service public, et dans l'espace public, on a considéré que la dissimulation du visage était contraire à notre principe de dignité de la personne humaine. Bon, il a fallu faire des contorsions juridiques, mais la loi a quand même été votée et validée par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel avec des réserves quand même de ces deux instances. Sur l'article 2, donc l'article 2, c'est la séparation. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Là, on a beaucoup évolué depuis 1905, puisque le non-subventionnement des cultes a pris du plomb dans l'aile, on va dire, à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, dès 1905, il était prévu que les collectivités, que l'État assure l'entretien des édifices cultuels propriétés de l'État. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans une collectivité comme Bordeaux, on consacre beaucoup d'argent à rénover le patrimoine catholique, essentiellement un peu juif, et on consacre absolument pas d'argent pour les cultes, enfin les édifices construits après 1905, ce qui crée quand même une iniquité entre les cultes, et donc ça c'est quand même un souci aussi, c'est que cette loi elle a été votée il y a 111 ans aujourd'hui. Donc le principe de non-financement, déjà dans les 1905, il avait une portée qui était réduite. Depuis, il y a eu différentes lois. Il y a eu une loi en 2006 qui a permis de faire le bail emphytéotique cultuel. Le bail emphytéotique cultuel, donc concrètement, c'est une collectivité qui met à disposition un terrain pour l'édification d'un lieu de culte. Et il y a une décision du Conseil d'État de 2011 qui a entériné le fait que cette mise à disposition pouvait se faire de manière gratuite. Donc on n'en est pas encore à financer directement les murs, mais on peut déjà octroyer un terrain. Depuis 2011 également, les collectivités peuvent financer des équipements d'intérêt public local. Si ça a été le cas à la cathédrale de Lyon, il a fallu financer un ascenseur pour mettre aux normes l'accessibilité de la cathédrale. C'est un lieu de culte, mais qui est un lieu très touristique, qui bénéficie au rayonnement de la ville de Lyon. Il a été validé que s'il y a un intérêt public local, les collectivités peuvent financer. Il y a depuis longtemps, ça remonte aux années 60, la garantie des emprunts pour la construction des édifices cultuels et également la possibilité de financer les projets culturels qui sont adossés à des projets cultuels. Et je tiens d'ailleurs à faire une petite précision sur le projet de Grande Mosquée de Bordeaux. On dit beaucoup de choses sur ce projet et en étant en charge avec Alain Juppé de ce dossier, je peux vous dire une chose, c'est que compte tenu des finances de la ville et compte tenu du contexte, il n'a jamais été question ni de mettre à disposition un terrain de manière gratuite, il sera vendu au prix des domaines, ni de financer la partie culturelle du projet. Hein, donc là, je tiens à tordre le cou à des rumeurs qui sont répandues par l'extrême droite. La Fédération musulmane de la Gironde, avec laquelle on travaille en très bonne intelligence, ne demande pas de financement à la mairie de Bordeaux dans ce cadre, ni de mise à disposition du terrain de manière gratuite. Donc le principe de non-financement dans la loi 1905, aujourd'hui, il a été quand même mis à mal. Le principe de non-reconnaissance, je le disais tout à l'heure, avec également la question de ces conseils interreligieux au niveau local, mais également, quand un État fait un conseil français du culte musulman, on est dans un principe de reconnaissance. Il va vouloir avoir des interlocuteurs reconnus qui ont une relation institutionnelle avec l'État, et c'est encore plus fort dans le cadre de l'instance de dialogue avec l'islam de France, qui a été réinstallée par Bernard Cazeneuve via Emmanuel Valls il y a quelques jours. On voit bien que là, on essaie de choisir les interlocuteurs avec lesquels l'État a envie de travailler sur les questions cultuelles. Donc aujourd'hui, de ce principe de séparation, il ne reste finalement que le non-salariat et le non-financement direct. Et le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 février 2013, va même plus loin. Il dit aujourd'hui, la laïcité, c'est le non-salariat. Pourquoi la jurisprudence et la loi ont évolué? Parce que les réalités sociales ont évolué et qu'on se retrouve aujourd'hui avec des besoins. Il y a eu des besoins de construire des églises dans les années 60 et même entre les deux guerres, pendant le Front populaire, il y a eu ce qu'on a appelé les chantiers du cardinal, où quand la périphérie de Paris a commencé à s'urbaniser, il y avait un besoin de lieux de culte, il y a des aménagements qui ont été trouvés par rapport à la loi de 1905. La grande mosquée de Paris a été construite aussi postérieurement à la loi de 1905, avec une loi spéciale, avec un cofinancement de la mairie de Paris. Et donc, si vous voulez, la préoccupation des pouvoirs publics à chaque fois, c'est quand même de trouver un équilibre social. Il y avait des besoins d'église entre les deux guerres. Quand on a créé de nouveaux quartiers dans les années 60 avec la politique HLM, il y avait aussi dans ces quartiers besoin d'église. Et donc, on a facilité les choses pour les cultes parce que derrière, dans le principe de laïcité, il y a aussi la possibilité pour chacun de pouvoir exprimer son culte et vivre son culte. Aujourd'hui, la question se pose moins pour l'Église catholique et plus pour les musulmans. Je crois que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a fait une proposition de taxer le halal pour financer l'édification de mosquées. On ne sortira pas des questions identitaires et des troubles identitaires si les musulmans n'ont pas, comme les autres, des lieux de culte pour pouvoir exercer leur religion en toute indépendance, en toute liberté. J'ai presque fini, je vous rassure. Alors, pour aller plus loin dans les débats actuels, se posent deux questions. La question du voile en entreprise et à l'université. Bon, je sens que ça va faire partie des débats qu'on va avoir qui vont être très enrichissants. J'avais prévenu que je n'étais pas exactement sur la même position que le Grand Orient en venant ici, mais c'est ce qui va justement pouvoir donner lieu au débat. Alors, faut-il limiter l'expression des convictions religieuses en entreprise? En fait, elles sont déjà limitées. La liberté de religion est une liberté fondamentale, garantie par la Constitution, la République respecte toutes les croyances, article 1 de la Constitution, par la loi de 1905, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, par la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, la liberté de religion, c'est une liberté fondamentale. Donc, en France, on a le droit d'avoir des convictions religieuses, on a le droit de les exprimer. Il y a des limites. Les limites, c'est l'ordre public. L'ordre public, tranquillité, salubrité et sécurité. Il y a aussi d'autres limites. Il y a le droit d'entreprendre. Dans une entreprise, vous avez le droit de limiter la liberté de vos salariés, la liberté religieuse, si ça nuit à votre droit d'entreprendre. Et donc, si le bon fonctionnement de l'entreprise est limité, comme c'est la même chose pour la fonction publique, un agent public peut demander un congé pour fête religieuse, et la loi est très claire, si ça nuit au fonctionnement du service public, l'employeur, la collectivité peut refuser. Donc on est sur un principe de liberté fondamentale qui est encadré par les autres libertés, le droit à la sécurité et le droit au bon fonctionnement, le droit d'entreprendre, qui est aussi une liberté en France fondamentale. Donc, à mon sens, en entreprise, la question, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas plus par la loi El Khomri, qui ne fait que reprendre, je l'ai encore relu tout à l'heure, elle ne fait que reprendre l'état du droit actuel. Elle reprend le Code du travail, j'ai l'article du Code du travail avec moi aussi, qui est les jurisprudences en cours en précisant les choses. Et donc, il va y avoir moins de tensions. Mais le principe dans la loi El Khomri reste le même. Fondamental de la liberté de religion, c'est notre corpus juridique qui est comme ça, et c'est le corpus mondial, européen de la CEDH qui est comme ça. Il y a beaucoup de pays occidentaux, les pays en général démocratiques, portent la liberté de religion en liberté fondamentale. Et on peut restreindre la liberté si ça nuit aux libertés des autres et au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc il n'y a absolument pas d'avancée là-dessus. Ça ne fait que mettre noir sur blanc les conditions dans lesquelles on peut restreindre la liberté de religion, ce qui fait que les choses sont plus claires, et ça ne fait que reprendre la jurisprudence. Une partie des lois en France qu'on vote ne sont que des sécurisations de jurisprudence. Et donc là, la loi El Khomri, et pourtant je ne peux pas être soupçonné, compte tenu de mon appartenance politique, de soutenir le gouvernement actuel, mais je dois dire que là, sur ce point-là, il n'y a aucune évolution, on est juridiquement dans le continuum du Code du travail actuel et de la jurisprudence. Donc à mon sens, la question ne se pose pas en entreprise, ni d'ailleurs à l'université. C'est le deuxième point chaud qu'on va aborder, la question du voile à l'université. Je l'ai dit tout à l'heure, la liberté de religion est une liberté fondamentale, et donc on ne peut la restreindre que si ça nuit à l'ordre public ou au fonctionnement de l'université. En quoi le fait d'avoir des jeunes femmes voilées à l'université poserait un problème de tranquillité, de salubrité ou de sécurité, ou nuirait au bon fonctionnement de l'université? Bon. C'est pour ça que même Manuel Valls, qui est favorable à l'interdiction, a dit que ça ne tenait pas la route sur un plan constitutionnel, parce que la Constitution garantit les libertés fondamentales. Et puis on peut aller plus loin à l'université. Si on interdit les signes religieux ostensibles, donc on va interdire le voile, on va interdire la barbe. La barbe aussi est un signe religieux. À quelle taille de barbe? Je vois des barbus dans l'assistance. Voilà, ça devient très compliqué quand même. Cette question de l'ostentation religieuse, elle est quand même très compliquée à manier, et il faut quand même se méfier de ce qui peut être difficilement interprétable. J'arrive à la fin pour vous dire quand même que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, je rentre du Canada. J'ai visité le centre de prévention de la radicalisation des individus. C'est notre centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui est un centre important. Il y a une vingtaine de salariés, un budget de 2 millions de dollars. Et les Canadiens, ils ont vraiment mis les moyens pour prévenir la radicalisation. Et le débat au Canada n'est pas du tout porté sur les signes religieux. Le débat au Canada, il est d'essayer de comprendre pourquoi les jeunes partent faire le djihad, et pas du tout à faire des débats sur le voile à l'université, qui sont deux sujets qui sont quand même très différents. J'ai eu accès à des données d'une étude qui n'a pas été encore publiée, c'est des données préliminaires, d'une étude qui a été faite par un psychiatre, qui est un psychiatre français, et qui a interrogé 1800 jeunes. Et très clairement, sur les raisons pour lesquelles les jeunes seraient amenés à soutenir la radicalisation violente, les actions violentes, on retrouve quoi? On retrouve le sentiment de discrimination, l'anxiété et la dépression, et on sait très bien, il y a des études faites notamment à Bordeaux par François Dubé qui ont démontré que les discriminations produisaient l'anxiété et la dépression. Et donc, il y a une corrélation statistique, il y a des tests statistiques qui ont été faits, entre le soutien à la radicalisation violente et le niveau d'anxiété, de dépression et de discrimination ressentie. Et ça n'est pas corrélé ni à l'origine ni à la religion. C'est-à-dire que les Québécois, les jeunes Québécois qui partent faire le djihad, ils partent parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils se sentent pas à l'aise, parce qu'ils se sentent mis à l'écart de la société, et qu'on leur promet monts et merveilles de l'autre côté du globe, en leur disant viens, tu auras une place dans la communauté, nous on t'aime, tu auras un travail, tu auras une femme et tu auras ta place. C'est des travaux qui vont être publiés, qui sont incontestables. 1800 jeunes, un traitement statistique. Et nous, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le centre de Bordeaux. On n'a que 20 suivis, mais c'est ça. On n'a pas de salafistes radicalisés dans le centre. C'est pas du tout comme ça que la question se pose. Donc je crains malheureusement qu'en France on confonde les débats, et qu'à vouloir s'occuper des salafistes, il faut s'en occuper certainement pour d'autres raisons, parce qu'ils sont nuisibles à notre vivre ensemble, il faut certainement faire des choses, mais il faut pas confondre les choses, parce que à vouloir faire la chasse aux salafistes, on en oublie quand même à faire le travail de repérage sur des signaux beaucoup plus fins, qui sont pas des signaux d'ostensibilité religieuse. Pour conclure, en trois points, je pense qu'il faut remettre au cœur de notre contrat social trois éléments qui sont les fondateurs de notre contrat social, la liberté de ne croire ou de ne pas croire, et quand on est croyant, d'exprimer ses convictions religieuses dans les limites de l'ordre public, c'est ce que dit la loi. Et moi, je suis, à titre individuel, pour la liberté pour les femmes d'être voilées si elles le souhaitent, comme de ne pas être voilées si elles ne le souhaitent pas. Et je pense que de ce point de vue-là, ni l'État ni l'entourage a de leçons à leur donner. et faire le bien, vouloir l'émancipation des femmes à leur corps défendant, c'est quand même très compliqué. L'égalité, l'égalité de tous, croyants, non-croyants, à se voir appliquer les mêmes lois de la République, et je donnerai un exemple, une journaliste voilée a été refoulée à l'hôtel de ville de Paris lors de la remise des prix du comité Laïcité République, je crois que c'était en octobre dernier. Il faut quand même savoir, alors finalement elle a réussi à rentrer après discussion, mais il faut quand même savoir que dans le droit français c'est très clair. Quand vous refusez un accès public à une personne qui n'est pas soumise au devoir de neutralité et pour des raisons de signes religieux, on est sur des articles 225.1 et 2 du code pénal, et donc c'est punissable de 75 000 € d'amende et de 5 ans de prison au titre de la discrimination. Donc il faut bien se rendre compte que la manière dont on apprécie les choses peut aussi être vécue d'un point de vue subjectif, mais aussi au regard du droit, comme une discrimination. Et enfin, il ne faut pas que les questions religieuses occultent les questions sociales. Les replis identitaires... Je pense que le port du voile, on peut le qualifier de repli identitaire, quel qu'il soit, sont directement liés aux questions sociales. Ça a été démontré par François Dubé, un sociologue bordelais, par Farhad Khosrow-Cavard, qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Et ils ont démontré que quand on n'avait pas de place dans la société des hommes, on avait tendance à se réfugier dans celle de Dieu. Jaurès disait que la République est laïque et sociale, et qu'elle saura rester laïque si elle sait rester sociale. Et avec Jaurès, je fais le vœu que nous attelions en France aux vrais problèmes, qui sont l'intégration segmentée du fil des discriminations. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'emploi et parce qu'il y a des discriminations dans l'accès à l'emploi. Les vrais problèmes sont la crise économique, qui touche encore plus durement les populations issues de l'immigration, et un problème global, à mon sens, qui dépasse les questions migratoires de mal-être des jeunes. Et ce sont les véritables causes de la montée du fondamentalisme et de la radicalisation. Et je pense qu'il faut traiter les causes plutôt que les symptômes. Voilà, je vous remercie.